Jean-Luc, reviendra ici vendredi prochain, ainsi que samedi, et la même chose le week-end prochain. Puisqu'aujourd'hui on a choisi le cinéma et la politique, ou la révolution, alors on vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Je vous rappelle qu'on a projeté ce matin le cuirassé Potemkin, je crois, des extraits. Ensuite, Mr. Deeds goes to the town. L'âge d'or, des Buñuel, oui. Et puis le dernier, c'était quoi? AZ de Costa Gavras. Et puis cet après-midi, vous venez de voir, n'est-ce pas, la chinoise. Moi, j'aimerais bien vous poser la première question. Comment vous faites cette comparaison entre la chinoise, disons, et l'âge d'or?
Moi, j'ai mis l'âge d'or ce matin juste pour qu'on pose cette question, effectivement. Puisque c'était quelques exemples de films, je pense, de ce que les metteurs en scène, quand ils les ont fait, les réalisateurs ont considéré comme films politiques. Et justement, je pense que l'âge d'or ne serait pas classé aujourd'hui par les critiques de cinéma comme film politique, alors que c'est probablement je crois, le seul film du cinéma qui est fait un peu scandale et qui encore aujourd'hui possède, je veux dire, une grande force. C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose, qui peut changer. Et que ça gêne. Sauf qu'il est fait sur un. C'est intéressant à passer peut-être uniquement après le Potemkin, effectivement. Moi, ça peut faire un peu drôle. Je regardais le Potemkin, des bouts du Potemkin. Ce matin, je marchais dans les rues de Montréal. Et effectivement, ce film qui a été fait en 25, qui raconte des éléments de 1905 qui ont amené ceux de 17, qui étaient un assez grand changement social, ou quelque chose du moins qui a fait beaucoup de bruit. Et puis aujourd'hui, quand on voit tout, enfin, ce qui peut rester, je regardais effectivement les rues sales, les voitures, ce week-end assez triste. Qu'est-ce que c'est que cette civilisation moderne? Enfin, qu'est-ce que voulaient les gens il y a 40 ans? Puis on passe un espèce de souvenir de gens qui sont morts. Bon, ben, c'est toujours intéressant de voir le cinéma aussi comme ça. L'âge d'or, je crois que c'est intéressant parce que c'est un changement de... Je veux dire, c'est un film qui parle des formes. Je pense que ce qui est plus difficile à changer, c'est pas le fond, c'est la forme. Pour prendre l'opposition classique, pour s'entendre sur les mots, la forme, c'est ce qu'il y a de plus difficile à changer. Changer un homme, changer la forme, ça prend des millénaires et des tas de choses. Et à des moments, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve que l'âge d'or peut être placé comme film politique, car il s'adresse effectivement à des changements de détails, des changements de forme dont on voit qui sont les plus puissants, qui sont simplement les relations sociales ou la bonne conduite, la manière de se conduire. On voit effectivement que les diplômes ou l'habillement, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et que si vous vous habillez mal, ben vous n'êtes pas reçu dans certains endroits. Les formes, la manière dont un chef de gouvernement peut être accueilli dans un aéroport, ou la manière dont un bébé peut être baptisé, ou la manière dont on se marie, qui est encore assez puissante, enfin, où les gens tiennent absolument à un certain nombre de formes. Et les vrais changements, c'est quand ces formes changent. Et les vrais non-changements, c'est quand il y a des mots qui changent, quand on dit socialiste au lieu de capitaliste, et puis que les changements ne sont, qu'est-ce qui a vraiment changé. C'est ça qui est intéressant. Donc je crois que là, il y avait quatre exemples, ou avec la chinoise après, qu'un cinquième exemple de film qui prétend traiter le changement, de gens qui veulent changer quelque chose. C'est ça le sujet du film, à travers un personnage ou deux. Et on voit comment ça a été traité à différentes époques par les Russes, par deux anarchistes espagnols, dont l'un s'est converti au franquisme après, dont l'autre s'est retiré au Mexique. Ensuite, par une espèce d'idéaliste sicilien qui a été un des maîtres, un des rois d'Hollywood à un moment donné. Puis dans les films dits classiques dont les gens disent beaucoup de bien, comme Z. Et puis après, par un petit film comme la chinoise, qui a été fait environ un an avant les événements de 68 en France. Et on peut... Donc je trouve qu'il y avait tout à fait une place pour l'âge d'or. Il faut plutôt mettre l'âge d'or dans ces films-là, entre Z et le Potemkin. C'est un film encore, je pense, qui pourrait projeter dans une bonne société, dans ce qui s'appelle la bonne société, ferait tout à fait un scandale. C'est le film mal habillé, enfin je sais pas qui fait, volons le personnage de Gaston Modeau, effectivement il y a une énorme force. Et puis c'est un film où l'amour est lié, contrairement aux autres films qui, quand on fait des films politiques, l'amour n'entre pas en ligne de compte. Là, c'est un film qui présente l'amour comme un des éléments essentiels. Ce que les gens appellent l'amour, normalement, comme un élément essentiel. Alors, effectivement, vous pouvez toujours aller une soirée chez le Premier ministre et vous rouler par terre avec la bonne. Ben, je pense que vous vous ferez mettre à la porte. Ben, ça fait partie aussi de la révolution. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on fait la révolution, mais je veux dire ça. Les petits changements, enfin, je sais pas, je vois ma fille à l'école, par exemple, il y a un truc qui est marrant. Si elle met un bandeau à la John Board comme ça, c'est pas toléré. Par contre, si elle met un bandeau pour tenir les cheveux, mais que le bandeau, au lieu d'être mis comme ça, la hippie, voilà, John Board, est mis simplement plus sagement, là, c'est toléré, c'est-à-dire... C'est vraiment minime, c'est 3 cm, une manière de s'en tirer les cheveux avec 3 différences. Or, pour le directeur de l'école, c'est fondamental. Il y en a un qui est accepté, un autre qui n'est pas accepté. Et ça, c'est dans tous les collèges, ou dans toutes les universités, ou la manière dont on habille les stewards ou les stewardesses dans les avions, la manière dont on habille les infirmières, par exemple, dans les universités. Les choses comme dans les hôpitaux, enfin, je sais pas, l'habillement est quelque chose d'extrêmement puissant aussi. Ben, ça, c'est ce que j'appelle le changement des formes.
On vous a toujours posé cette question, vous avez voulu, là, vous parlez des changements de formes, etc., mais dans le chinois, finalement, en regardant les films, je m'excuse de faire cette comparaison parce que je sais que vous avez jadis qualifié Chris Marker, magique, vous avez joué avec les mots. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit ça? On vous a fait dire.
C'était très gentil, c'était pas gentillesse, oui.
Ah, oui. Ok, mais je crois que vous aboutissez, il parle du documentaire. Il parle de ce rêve inaccessible, ce qu'on appelle, disons, la révolution. Si vous regardez son dernier film, il aboutit au même résultat que vous avez abouti dans votre film La Chinoise. C'est mon impression personnelle.
Oui, mais il a mis un peu... Il a peut-être perdu plus de plumes que moi, puisqu'il y a mis un peu plus de temps, si vous voulez. Déjà, effectivement, à l'époque... C'est drôle, ce film, La Chinoise, à l'époque... Bon, il a été considéré comme ridicule. C'est pas ça la politique. C'est pas ces personnages, ces étudiants sont des bourgeois. Qu'est-ce que c'est que ces mots? C'est ridicule et tout ça. Moi, je faisais de c'est de l'ethnologie plutôt, un côté documentaire. J'étudie une certaine sorte de gens là que je ne connaissais pas très bien et qui, c'était des petits groupes à Paris qui s'appelaient marxisme-léninisme. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'étais, disons, plutôt attiré par eux que par étudier les syndicalistes du Parti communiste ou des choses comme ça, qui du reste, ne m'aurait pas laissé filmer, tandis que là, c'était plutôt comme les premiers chrétiens ou des choses. Donc j'ai dû intriguer. J'ai connu comme ça Jean-Pierre Gorin, qui lui avait un peu, qui m'a tuyauté un peu, puisqu'il faisait partie, c'était ma première rencontre avec lui, de ces cercles, ça s'appelait l'équipe. Un truc qui s'appelait les cahiers d'études marxistes-léninistes. Ils se réunissaient aux sociétés savantes. Et lui, du reste, s'était fait tabasser à l'époque par les autres, car il avait des rapports avec moi. Et pour eux, il fallait pas qu'il ait de rapport avec un cinéaste bourgeois, vaguement pseudo-anarchiste, pseudo-lourd, enfin, je ne sais pas quoi. Il y en a un autre qui est un vrai personnage, qui est le rôle du noir, qui s'appelait Omar Diop. Que je connaissais parce que je connaissais Anne Wierzinski et il était étudiant à l'université de Nanterre aussi, et je lui avais demandé s'il pouvait jouer son propre rôle dans le film, et à un moment donné, je tenais à ce que ça soit lui qui fasse des cours aux autres, justement en tant que noir, si vous voulez. Omar Diop est né et mort dans les prisons de Sangor au Sénégal il y a 3-4 ans. Et pour moi, enfin, ça montre, je veux dire, le film n'était pas. Effectivement, leurs efforts étaient ridicules, mais eux n'étaient pas ridicules. Et ce qui était ridicule, c'est que, je sais pas, ben, que tout se soit passé comme ça. Et aujourd'hui, la vraie réalité de ce film, c'est qu'effectivement, ces gens étaient ridicules, mais que si on regarde où étaient tous ces. Encore, moi, j'avais fait bien attention à prendre la seule chose que je connaissais, et là d'où je venais, c'est-à-dire des fils ou des filles de famille qui jouaient au marxisme-léninisme, qui se présentaient pendant les vacances, comme les enfants jouent à construire une tente d'Indien, ben là ils jouaient au marxisme-léninisme, ils jouaient aux Chinois, c'était l'arrivée des petits livres rouges. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que sont devenus tous ces militants purs et durs de l'époque, qui n'étaient qu'un peu comme ça, c'est assez. Effectivement, ce film est un vrai documentaire et ils n'ont jamais accepté un documentaire sur quelque chose d'un peu touchant et de ridicule qui n'est que moi j'essayais de présenter d'une manière plausible. Effectivement, une fille qui s'enferme dans le grand appartement de ses parents et qui pendant 2 mois joue au marxisme-léninisme comme d'autres l'ont joué dans la rue ou un peu autrement. Il y avait à la fois du vrai et faux, c'est pas. Donc, le film, je trouve, ça rend un ton aujourd'hui plus assez vrai. Je trouve que c'est comme par hasard, du reste, les événements de Nanterre se sont passés un an après. Donc, il y avait forcément quelque chose de vrai. Moi, je l'ai filmé avant que ça prenne vraiment forme. C'est en ce sens-là que m'intéresse la. Enfin, le cinéma peut servir à ça, à voir la création des formes. L'embryologie, c'est quelque chose mystérieux et peu qui n'est pas régi par des il y a moins de lois qu'en biologie ou comme ça, quelle forme ça prend, comment, pourquoi un oiseau a tel et tel genre de plumes, comment ça se fait qu'il y en ait qui aient des cheveux bruns et d'autres des cheveux noirs, comment ça, enfin, comment naissent la création des formes et ensuite la vie en société, comment les sociétés se forment et les gens se forment et s'informent et se déforment. Et comment, une fois qu'il y a une forme qui est prise, ça se change, on peut appeler ça une révolution, un demi-tour ou qui fait une spirale. Car si ça bouge, ça devient, si ça ne fait qu'un demi-tour, ça fait un cercle vicieux. Et sinon, comme l'a exprimé Mao Tse-Tung, ça fait des spirales, c'est-à-dire, et ça, c'est comme ça que les choses changent.
Pour moi, je poserai plus de questions. Pour le moment, je vous laisse la parole. C'est juste pour animer un peu. Un peu plus fort, là.
des choses dans ce que vous voulez dire, je ne vois pas, pas de question précise. Oui, mais ça vaut rien, il faut dire qu'elle est loin d'être, avec raison, elle est loin d'être idéale. Enfin, il y a marqué, il y a toujours marqué dans les livres comme ça que c'est idéal, puis les gens, ils sont pas si cons, ils voient quand même que c'est, ils voient quand même que c'est pas le cas. Ah, je crois pas. Ah, je ne crois pas du tout, je crois justement la manière dont on raconte l'histoire ou le cinéma ou la télé, enfin ou les images me semble assez important parce que ça ne ment pas, du reste ça n'a pas à mentir, on peut les faire mentir, mais une image c'est jamais, ce n'est qu'un fait, c'est un moment d'un fait, ça n'est même pas tout. Ce qui peut mentir c'est l'utilisation, mais une représentation. Non, mais moi, ma seule intention, c'est pas de dire quelque chose, ma seule intention, c'est d'arriver à pouvoir, après, qu'on se dise quelque chose. Ma seule intention, c'est de filmer d'une certaine manière. Ce n'est pas de filmer d'une certaine manière pour, c'est de filmer d'une certaine manière. Le pour, pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'effectivement. Pardon? Oui, mais ça. Ben, ça me sert là, par exemple, à montrer, ça me sert à montrer, si vous voulez, qu'il y a à pouvoir plaider le fait qu'il y avait du vrai, même tout aussi ridicule et comme ça, il y avait quelque chose d'intéressant et de vrai. Dans ce qui s'est passé et après, et dans le fait, et qu'au moment où on pouvait dire en 67 en France, bon, ces enfants sont ridicules, on pouvait dire non, et aujourd'hui, on peut dire, au lieu de dire ces enfants de 68 ont été assez sérieux, ils ont fait des choses assez sérieuses, moi je peux dire aujourd'hui, ben ils ont été quand même un peu ridicules. Je veux dire, c'est si vous avez envie d'en parler, sinon moi, je ne tiens pas. Oui, mais qui a dit qu'une question implique réponse? C'est ceux qui ont inventé, même le dictionnaire ne dit pas, quand il écrit le mot question, il ne dit pas la question appelle la réponse, c'est tout un système mis en place, et je préfère justement le système des images où il y a des mots et des sons et comme ça, que le système des mots seuls, qui empêche, et c'est toujours ça, qui empêche à la longue le changement de forme. Effectivement, on dit, il y a toujours un mot, le socialisme, ou des choses comme ça, les gens se battent avec des trucs comme ça, plutôt que se battre avec deux ménagères, par exemple, elles ne se battent pas ensemble en disant la salade c'est mieux que la pomme de terre, ou des choses comme ça. On peut faire des plats différents, et suivant les moments qu'on fait, on préfère l'un ou on préfère l'autre. À des moments, il y a toujours eu, par rapport à ce que vous dites, le sentiment que tout recommence pareil et qu'on n'en sortira jamais, mais il nous est dicté par quelque chose qui était tordu, qui n'est pas fait pour ça, qui n'est simplement des sons organisés d'une certaine manière avec lesquels on peut communiquer, mais qui ne sont pas toute la communication. Or, ce qu'on appelle que les trois quarts aujourd'hui, les 9/10 de la communication, c'est ça, même la télévision aujourd'hui, qui a fait des images. Aujourd'hui, on en arrive à ce tour de force que la télévision passe des textes. Et les journaux vont passer à la télévision. On lira, d'abord on fera, on se fait très très mal aux yeux, mais c'est important que les gens se fassent mal aux yeux, car si, ça effectivement, d'abord ça fait vendre des lunettes, et puis ensuite, ensuite ils ne peuvent même plus voir ce qui s'appelle voir, ils ne savent que lire. Ils utilisent leurs yeux pour lire, mais pas pour voir. Et du reste, on apprend à lire de plus en plus tôt pour être sûr qu'au moins que les enfants, un jour, ne vont pas renverser les choses, ou que les vieillards qui commencent à voir d'autres choses, ou que quelques peuplades, ou quelques sorciers qui avaient une certaine manière de voir, et effectivement, on les traîne en ridicule en disant « c'est scientifique, c'est pas ça ». La science, ça consiste à voir uniquement. Les savants se servent de leurs yeux, ils arrivent à voir quelque chose. Ce qui va plus, et ensuite, quand ils traduisent, ils essayent de dire ce qu'ils ont vu. Plutôt que de faire de films ou des images, ils se servent d'images. Quand ils voient le monde, ils se servent d'images. Mais plutôt que d'essayer de faire du cinéma, une fois qu'ils ont pris une caméra qui s'appelle télescope et qu'ils ont vu un certain nombre de choses, ou une caméra qui s'appelle microscope dans laquelle ils ont vu un certain nombre de choses, ensuite, plutôt que de servir plus d'images et de sons aussi, et de mots aussi, mais qui sortent à des moments des images, qui à des moments se glissent entre les deux, c'est ce que le cinéma a fait toujours. Effectivement, on fait un énorme texte et l'image ne vient là que pour prouver qu'on a bien vu ça. Mais à ce moment-là, l'image ne sert plus, il n'y a que les mots. C'est pour ça, enfin ça c'était mon avis, j'ai développé déjà ici, que des découvertes mettent tellement de temps à se faire. Einstein a mis très longtemps à découvrir la relativité, c'est simplement parce qu'il se servait de mots. Ça aurait pu être découvert bien plus tôt, comme des tas de choses. Mais les mots sont venus là pour mélanger, discuter. Ils ont discuté 50 ans avant, on opposait le déterminisme ou je sais pas quoi, à la liberté ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, on oppose. Mais quand on voit les choses, quand on regarde comment vit un ouvrier russe, comment vit un ouvrier américain, on voit, si on faisait les films, vraiment, si on regardait plutôt que de lire, eh bien, on verrait les choses. Puis à ce moment-là, on verrait ce qu'on peut garder et ce qu'on ne peut pas garder. À ce moment-là, je pense que ça changerait tellement. Mais c'est du travail. Et c'est du travail, effectivement. On préfère se servir des yeux par plaisir que pour travailler.
Vous êtes satisfait? Non? Dans quel sens? Allez-y.
Qu'est-ce qui vous satisferait? Vous voulez être satisfait de quoi? Un peu plus fort. Oui. À des moments, des fois, ce qui m'intéresserait quand les gens posent une question, car moi, c'est évident, quand je fais une réponse ou que je pose une question à travers la manière dont j'ai de faire une réponse, vous savez que c'est parce que je m'intéresse à ça. Que je suis là pour ça, vous savez un peu ce que je fais, vous comprenez que je puisse parler comme ça. Mais à des moments, quand vous posez une question, des fois, ce qui m'intéresserait, ou ce qui aiderait aussi au dialogue, c'est que vous disiez, ben, ça m'intéresse de savoir cette question, parce que je suis en train de faire ceci et que j'ai besoin de... et que je pense que la question que je pose a un rapport avec soit ma vie, soit mon travail, soit quelque chose. Car si... sinon, la question, forcément, je la reçois comme abstraite. Pour vous, elle est concrète. Et moi, tout ce que j'essaye, c'est de vous remettre dans votre concret. Donc, c'est pour ça que je demande pourquoi vous n'êtes pas satisfait. Qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui d'être pas satisfait par le petit dialogue qu'on a eu, quel inconvénient ça va vous faire pour le reste de l'après-midi. Moi, je pense que tous les films que j'ai faits sont des films critiques. plus ou moins réussi, mais c'est en ce sens-là. Et c'est à cause de ça qu'on peut plus facilement voir, une fois que le temps et que les fausses idées que moi-même j'ai contribué à répandre aussi dessus, on peut plus facilement voir qu'effectivement, à cause du fait que c'est un film critique, s'il y a quelque chose qui passe, un film critique, ce que j'entends, c'est comme La Justice, qui est une critique, c'est un film qui peut montrer des éléments de quelque chose et qui peut aider à porter un regard dit critique. Il y a plusieurs sens. Il y a aussi le critique, c'est aussi le point critique, c'est le point où il y a des changements, le point d'ébullition de l'eau, enfin des moments, ce qu'on appelle ou un moment dans une situation dramatique. Aussi, le mot critique, c'est ça, une situation critique. On va tomber de son vélo, ou la guerre va commencer, ou votre femme va vous quitter. Enfin, des moments. Et moi, j'ai toujours essayé de filmer le plus possible des moments critiques et les films que je trouve ratés. C'est dans ce sens-là que j'estime que c'est des films critiques. Et les films que je trouve pas réussis, comme par exemple Bande à part ou hier Made in USA, c'est effectivement que je pensais filmer un point critique, un moment, et qu'en fait je ne l'ai pas fait du tout, je n'ai pas réussi à faire ça. J'étais loin du vrai point critique. Là, je pense que j'étais près d'un certain point critique. Il y en avait des tas d'autres. Il y avait d'autres films ou d'autres manières, d'autres choses de faire, mais que celui-là est intéressant parce que en ayant l'air d'être loin et un peu ridicule et de parler de politique avec des gens qui sont des espèces d'enfants de la bourgeoisie, enfin, quand même, il y avait quelque chose, ne fût-ce que, je ne sais pas, aujourd'hui, tous les anciens militants maoïstes ont écrit leur autocritique. Il y en a qui sont devenus gourous aux Indes, d'autres qui font de la musique, puis d'autres qui sont assez solitaires. Mais en même temps, enfin, effectivement, ça permet. Les vrais films qui auraient dû continuer ne sont pas faits. Quand on dit il faut être près du peuple, enfin, qu'est-ce que. Moi, je continue, j'essaye toujours de. Hein? Quel film? Ben, la chinoise qu'on peut servir si vous voulez, à être un peu un document sur ce qu'était à l'intérieur d'eux une partie des étudiants de Nanterre, dont à des moments, des gens, un certain mouvement est parti ou est plutôt passé par là, ou était un des lieux sociaux où ça s'est passé. C'est parti, je m'en souviens qu'effectivement, j'étais allé regarder comment c'était à Nanterre. Et effectivement, il y avait deux mondes. Or, tout ça, on disait déjà des choses qui ne seront même pas dites par les gens après. Aujourd'hui, 10 ans après, on peut retourner à. Mais qu'est-ce qu'on appelle, justement, à quel moment les gens font la différence entre un document, qu'est-ce que c'est encore? Un document, ça doit être sale, par exemple, c'est pas forcément propre. Tout est document, absolument. C'est-à-dire tout, à un moment donné du regard qu'on pose sur lui, est un moment de document. C'est-à-dire qu'il devient un stock, que ce stock est mis en mémoire, que cette mémoire peut devenir différentes sortes. Elle peut rester soit une mémoire de pur document, les documents ne sont pas tout. C'est pour ça, pour utiliser les termes classiques, fiction ou documentaire, je veux dire, ces deux aspects de la même chose. Et j'ai toujours essayé de donner un aspect que les gens appellent documentaire, pour employer les termes habituels, à quelque chose de fiction, et de faire jouer réellement des personnages imaginaires et imaginairement, si on peut dire, des gens réels, comme par exemple dans ce film, ou dans d'autres films, Francis Janson. Qui je demande de faire son texte réel, mais dans une situation un peu imaginaire que lui n'a pas choisi, mais qu'il accepte. c'est pas moi qui ai inventé ces mots-là, je trouve pas justement. Oui, mais ce que j'essaye, c'est d'en parler avec un objet dans la main, et non pas entre mots, je propose ça. Sinon, justement, aucune forme ne se crée, car les mots sont là, et du reste, la loi est faite de mots, elle n'est pas faite d'images. L'image ne sert qu'à un moment à faire appliquer la loi, au moment où on montre la preuve, où le juge montre une preuve, ou bien l'innocent montre la preuve de son innocence par le biais d'une image, ou qui peut être un texte, mais à ce moment-là, qui est considéré comme une image, car on voit, tout à coup. En mathématiques, à un moment, il y a une expression qui est « on voit que ». Sinon, les mots servent à solidifier quelque chose, à devenir une loi, que ce soit une loi sociale ou une loi de la pensée. Une loi sociale, il faut se laver les mains avant de se mettre à table. Ben oui, mais pour changer cette loi, il faut à des moments qu'il y ait des gens qui disent « bon, mais il faut que j'ai du savon, et le savon coûte cher ». Alors effectivement, il y a des... Ben moi, j'essaye de ne pas les opposer. Effectivement, mes ennemis sont ceux qui ne se servent pas des images ou qui se servent des images pour mieux, pour cacher plutôt que pour montrer, qui est la majorité du cinéma, où on cherche à cacher ce que les gens ont, et c'est pour ça qu'ils aiment les images, car ça leur montre des choses cachées, et en même temps, ça les cache à eux-mêmes plutôt d'être. Mais absolument, mais je pense que c'est intéressant que dans... Mais la vie, il y a des... Mais dans quel cadre sommes-nous? Vous allez chez vous, vous avez au moins une fenêtre chez vous, donc il y a des cadres, la porte aussi, la table est carrée, le lit est carré, on est forcément encadré. La manière même dont on approche l'embryologie, la naissance ou les... Le code génétique, tout ça, c'est des cadres d'une certaine forme. Il y a des moments, c'est bien que ça soit rigide, à des moments, c'est moins bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est pour...
Là-bas, excusez-moi.
Je vous dis, sauf Omar Diop, qu'il était si bien qu'il a fini par mourir assassiné par Léopold Senghor. Francis Janson, à l'époque, bien avant le film, était un des rares intellectuels français qui militait dans un réseau qui s'appelait du reste le réseau Janson, qui aidait activement le FLN. Algérien à l'époque, et qui était recherché par la police et qui risquait sa vie comme, je sais pas quoi, comme les gens qui travaillaient contre les Allemands pendant l'occupation, ou comme ici pendant la guerre du Vietnam. Même Francis Janson était quelqu'un qui a milité pour l'Algérie, disons encore plus que quelqu'un comme Jane Fonda en Amérique, comme ça, mais qui a pris ses risques comme elle. Donc est-ce du documentaire, l'arrêté? À des moments, je ne vois pas du tout l'intérêt qu'on a à nommer les choses. On les nomme pour s'y reconnaître. On appelle station centrale l'endroit où on sait que les trains partent, comme ça, bon, on pourra l'appeler d'un autre mot, et puis on a... Mais ensuite, nommer quelque chose documentaire ou fiction, ou nommer quelque chose socialiste ou capitaliste, en disant, ben non, ce que tu fais n'est pas du socialisme, ben on non, mais c'est pour dire, non, mais je critique pas ce que vous dites là. C'est à des moments, ben, comment on a fait le film, je vous dis, pour moi c'est un document, puisque j'étais à l'époque amoureux d'Anya Delmé, c'est aller à un endroit que je connais, ou du moins que j'ai envie de connaître. Et à ce moment-là, c'est le faire à partir des gens que je connais. Moi je ne vais pas, si Amiga Zemsky n'était pas étudiante à Nanterre à ce moment-là, et si Francis Janson n'était pas l'un de ses profs de philosophie, ben il n'y aurait pas eu de film. Mais alors à ce moment-là, pour faire des films, on ne voit pas pourquoi moi, on n'utilise pas un acteur, on n'utilise pas une caméra. On ne peut pas demander, il y a les gens du travail, ceux qui aiment jouer, il y a des enfants qui aiment se déguiser, il y en a d'autres qui aiment moins. Non, non, mais c'est pour vous dire, ben, dans ce sens-là, c'est là, disons, c'est ce qui a été convenu de dire la tradition du documentaire. On va tourner sur place et on demande aux gens de refaire leur propre geste. Mais moi, je leur demande aussi d'inventer une histoire, c'est-à-dire de faire eux-mêmes du théâtre et un peu un théâtre qui a un rapport avec le théâtre qu'ils font dans la vie. Après tout, la personne là, qu'est-ce qu'il faisait qu'elle allait à l'école? Personne la forçait d'aller à l'école. Elle avait 20 ans, elle avait de l'argent, qu'est-ce qu'elle avait besoin encore d'aller à l'école? Bon, ben, ça c'est. Alors à ce moment-là, on peut lui demander, est-ce que tu veux bien faire imaginer une autre école? Et puis on va jouer une petite des scènes entre nous, le théâtre, une autre école. Et puis on va filmer ça, et on va le montrer aux gens. Et puis, si ça les intéresse, ben, ils en discuteront un peu, ou ils en discuteront pas, ou ils nous foutront sur la gueule, comme certains ont fait, ou d'autres, ils diront après, ah, prémonitoire, mais ils le diront 2 ans après. Alors moi, je trouve Buñuel assez différent. Non, moi, je crois que Buñuel, il croit. Ben, c'est juste, je sais pas, je crois que c'est un film qui était beaucoup plus de Dali que de Buñuel. Oui. Aujourd'hui, comme Buñuel est devenu metteur en scène et que comme Dali est devenu ce qu'il était, mais c'est un film qui était beaucoup plus de Dali que de Buñuel. Mais alors ça, j'arrive absolument pas. Enfin, plus autrefois, j'aurais sûrement dit quelque chose. Où j'aurais dit, où ma manière de ne pas répondre à ça était soit de la provocation, soit de l'humour. Et en fait, si je répondais d'une certaine manière, je m'aperçois aujourd'hui, c'est que je ne voulais pas répondre à ça et être piégé par le fait au moment où on tire sur quelqu'un, ou le fait au moment où on fait un film, ou le fait au moment où on confectionne une omelette, si on vous dit, mais est-ce que tu crois qu'au moment où on confectionne une omelette, et puis quelqu'un vient vous demander, mais est-ce que tu crois vraiment à l'omelette ou est-ce que tu crois que tu as besoin de manger? La femme qui fait ça ou le cuisinier qui vous fait ça vous fout l'omelette sur la figure, et encore s'il est gentil. Ou c'est en. Mais comment est-ce qu'on peut poser? Moi, ça me paraît sidérant, simplement, et un signe de profonde maladie, donc moi j'ai aussi, puisque je le fais, je dois le faire aussi d'une autre manière, mais j'essaye de ne plus le faire là, c'est, est-ce que vous croyez en la révolution quand vous faites un film comme ça? Je ne crois pas. Tout autant que je peux croire la police quand je fais un film comme Made in USA, ou quand je fais un film comme Weekend, que je crois aux voitures. Ben non, mais justement, ce n'est pas ça que vous voulez dire, mais à des moments, on ne peut pas. Il faut cesser de dire ce qu'on veut dire parce qu'on ne peut pas.
Excusez-moi, monsieur.
Non, je crois, ce que je crois, c'est aux possibilités de changement. Ce que je crois, c'est que il faut exact. C'est ce qu'il y a de plus précieux, les possibilités de changement, et l'image est le plus précieux parce qu'elle peut immobiliser des moments de changement, soit sous la forme cinéma, soit sous la forme de photo, et donc qu'on peut vérifier et comparer avec d'autres si les possibilités de changement qu'il y a sont intéressantes, utiles, agréables, suivant les cas, et s'il y a des disputes, ben qu'on puisse s'accorder et que l'image est là juste pour se souvenir des possibilités de changement, car on enregistre, et à des moments, ce qu'on enregistre à l'intérieur de nous, dans la mémoire, et vu la manière dont fonctionne notre mémoire, vu la manière dont on est assemblé en société, et comme ça, c'est des fois beaucoup trop difficile de s'expliquer. Et c'est pour ça que les gens passent leur temps. Si à l'ONU, ils servaient un peu plus d'images et de mots, l'ONU serait plus efficace. Mais l'ONU ne veut pas être efficace. y a des choses, à des moments, on veut être efficace. Contre Hitler, un moment qui exagérait, bon, ben, c'est les gens qui faisaient la même chose chez eux, Churchill qui faisait la même chose dans les colonies anglaises, et les Français qui faisaient la même chose dans du reste. Dès que Churchill, dès que Hitler était liquidé, ben, ils n'ont eu qu'une. Ils sont tout de suite allés recommencer pareil dans d'autres endroits. Mais Hitler, au moins, il était plus franc, il le faisait chez lui, si vous voulez. Alors, il était vraiment dangereux à éliminer, car il montrait qu'il était tellement dingue qu'on l'a éliminé comme un dingue, uniquement. C'était parce que c'était un méchant qui était en plus encore plus dingue que les autres et qui n'écoutait même plus les autres. Alors là, on s'est servi à des moments d'image. On a montré un peu des photos de camps de concentration. Alors effectivement, les Anglais ou les choses comme ça, il y a, qui se faisaient exploiter par Churchill, ils ont dit « Ah, quel affreux, c'est Hitler » ou comme ça. Mais les images de camps de concentration, on ne les montre plus aujourd'hui. Personne ne sait ce qui s'est passé. Or, ça serait vraiment, même un des films, un type qui avait fait des films... qui faisait des films politiques à sa manière, on aurait peut-être pu en passer un maintenant, j'y pense, et un type comme Stanley Kramer, par exemple, qui a fait des films à sa manière quand il faisait des films sur Darwin, je sais pas, il avait à la manière de Z, c'était des films à la manière de Z, mais je trouve plus intéressant. Et à des moments, c'est ce qu'il a coulé, parce qu'il était assez honnête, et le film qu'il a coulé, c'est un film qui s'appelait Procès Nuremberg, qui a emmerdé tout le monde, et lui, américain, avait eu envie, quand même, une dizaine d'années après, de... je sais pas, d'essayer de... Et il a pris un cas simple, un petit juge, je crois que c'était Spencer Tracy, qui venait juger un petit cas, et puis qui... Bon, mais en fait, personne n'avait plus envie de voir ça. À des moments, l'image, enfin, on n'a pas envie de la voir. Une image d'horreur, enfin, c'est difficile. Effectivement, c'est juste, j'y ai pas pensé, mais inconsciemment, ça doit être ça. Il y avait deux extraits qui représentent des ruptures et de gens qui cherchaient à faire des ruptures là où ils étaient, les surréalistes en France, là où ils étaient, comme ils pouvaient. Enfin, à leur manière, d'un garnement mal élevé qui pissait sur le drapeau français, je sais pas, dans une cérémonie ou des trucs comme ça, mais qui sont des choses. Effectivement, vous pouvez toujours aujourd'hui, encore, si un malheureux va faire cuire, il y a encore un malheureux qui s'est fait cuire un œuf sur le tombeau du soldat inconnu, bon, ben, il fait quand même 15 jours de prison pour ça. Donc à des moments, on voit ce qui est permis et ce qui est défendu. Et puis Eisenstein, bon, ben, c'était les débuts de ce qu'ils ont appelé la révolution russe, c'était effectivement des sacrés changements. Et c'était des films qui ont eu une influence énorme. L'âge d'or a été peu montré, a été vomi, a été arrêté par la censure, et Potemkin a été très peu projeté. C'est devenu un classique du cinéma, mais dans le souvenir. Et on a commencé à le projeter, bon ben, bien après, une fois que la révolution russe, ou que ce qu'il pouvait y avoir de nouveau et de dangereux pour d'autres régimes dedans, n'avait, au moment où l'image, le poids de l'image n'existait plus. Car c'est un film qui a été interdit dans tous les pays. Et pour montrer comment les Allemands étaient cons, justement, étaient comme ça, c'est que Goebbels, quand il a vu le film, il a convoqué Eisenstein, il a demandé de venir et il lui a demandé s'il ne pouvait pas faire des films comme ça pour les Allemands. Et ce qu'il a, il a dit, ce qu'il nous faudrait, c'est un cuirassé Potemkin allemand. Mais effectivement, les Allemands, ce qu'ils faisaient n'était pas la même chose quand même que les Russes. Ils n'ont pas été capables de faire leur film. Et ça, ça juge aussi. Ils n'ont pas été capables, car sinon, s'ils avaient été capables de faire des images qui ont du poids, les seules images qui ont eu du poids, c'est des images de camps de concentration. Et ça les a ruinés tout autant. Alors effectivement, il y a deux films qui indiquent plutôt une rupture, et j'ai voulu mettre avec ça des films qui étaient considérés, disons sinon comme politiques, comme social. Effectivement, quand on lit les mémoires de Capra se prend... parle de lui-même comme un... Il n'emploie pas le mot révolutionnaire, mais c'est tout comme. Il pense qu'il a fait un film prof qui a fait bouger l'Amérique. Enfin, il parle de lui comme Eisenstein pouvait parler de lui-même. Et comme un film qui a eu... Aujourd'hui, on voit plus ça que une petite comédie. Mais un des films qui était un peu mieux de lui, mais on ne l'a pas trouvé, ça aurait été Meet John Doe, par exemple, qui effectivement qui était un échec. Et les échecs sont souvent beaucoup plus intéressants après à étudier, c'est dommage au moment que ce soit des échecs, mais après, car souvent c'est parce qu'ils dépassent juste la limite permise. Juste, ils s'habillent mal, ils n'ont juste pas la forme qu'il faut. Et le public et les producteurs qui exploitent et le public et le cinéma, eh ben en profitent pour dire, bon, c'est un échec, on ne vous fera pas faire un film. Mais ils sont intéressants car ils s'habillent. Moi, tous mes films ont été. Le seul reproche, moi, on m'a jamais dit, vous faites un film de gauche ou de droite ou de trucs comme ça. Le seul reproche que m'ont fait les gens de cinéma, c'est vous ne faites pas du. Ce n'est pas du cinéma ce que vous faites. Moi, quand j'ai fait de la télévision, quand j'essaye, ce n'est pas de la télévision. Effectivement, ma difficulté, c'est toujours d'arriver à être juste en deçà, le moment où le film a un vrai point, en deçà du point où je bascule et où je suis considéré comme mal habillé. Mais ça, c'est aussi hein, parce que je suis trop seul, et c'est un élément de faiblesse aussi que j'essaye de. Car on ne souhaite pas toujours vivre en marge.
La parole est au citoyen. Maintenant? Oui. Non, parce que vous avez commencé tout à l'heure. Ah oui.
À propos de Ridicule, il y aura peut-être aussi un film, mais on ne peut pas tout projeter. Mais s'il y avait vraiment tout ce qu'on cherche à montrer, nous, c'est qu'on enseigne ici, c'est qu'on n'enseigne pas vraiment le cinéma dans les universités. On se sert du cinéma pour enseigner autre chose, mais qu'on ne cherche pas à savoir. C'est uniquement la preuve de. Enfin, ce qu'on essaye de faire ici. Alors, là, j'y pense, il y a un film qui aurait été intéressant de montrer par rapport à la chinoise, c'est Ice de Kramer. Ou des films comme les films de Kramer. Car à l'époque, effectivement, moi, on m'a toujours dit, on m'a toujours dit que mes films n'étaient pas, de par les gens qui se voulaient militants, ils opposaient l'un ou l'autre, comme l'un étant vrai, et un film comme La Chinoise, comme ça. Aujourd'hui, ça m'aurait intéressé, effectivement, de voir, car on verrait, effectivement, de par ce qui s'est passé en Amérique et de par ce qu'on connaît, en quoi les personnages de Kramer qui étaient filmés à la manière du documentaire, caméra portative, caméra de reportage ou des choses comme ça, étaient ni plus ni moins ridicules et touchants et complètement hors du contexte américain que ceux-là étaient hors du contexte français. Mais c'est leur façon d'être hors du contexte français ou hors du contexte américain qui faisait qu'ils étaient en même temps tout à fait dans le contexte, que ce or était quand même d'une certaine. À un endroit, pas partout, mais à un endroit. Car Mai 68 n'avait aucun rapport avec ce film. Les rues de Paris ou certaines occupations d'usines ou des choses comme ça, je ne sais pas, mais ça n'avait. Le peu que j'ai vu et tout ce que je n'ai pas vu et senti avait très peu de rapport. Mais ce peu de rapport a un rapport très réel quand même avec ce qui se passait. Et à l'époque, on aurait opposé Ice ou d'autres films de Kramer à celui-là. Aujourd'hui, on voit qu'ils étaient assez semblables. Aujourd'hui, je sais pas, quand on voit si on avait filmé. Si on avait vraiment filmé à l'époque, je sais pas, des groupes comme des Weathermen aux États-Unis. Et qu'on avait filmé, à un moment donné, je me souviens, il y a eu toute une villa à New York et ça a été la fin qui a explosé parce qu'ils manipulaient. qui manipulait mal les explosifs. Ben, si on avait filmé ça, enfin, effectivement, les policiers auraient rigolé, car ils auraient dit, mais c'est de cela dont on a peur. Et ils auraient été un peu ridicules et infiniment touchants d'une certaine manière. Si on avait pu filmer les gens de la bande Abadère ou des choses comme ça, on aurait effectivement, ça aurait été un film complètement onirique, mais onirique, mais qui aurait ressemblé à des films de Clint Eastwood aussi, avec des trucs extrêmement violents, vulgaires, et on connaît. Et pour ça, il faudrait que les gens acceptent les images plutôt que les paroles. Non, au contraire, mais mieux montrer les différences et le fait que ce n'est pas des adjectifs. Les adjectifs ne sont pas faits pour juger une situation. Aujourd'hui, on est à une époque où c'est les adjectifs qui servent à définir. Ce qui sert à définir, c'est même dans une phrase, c'est un verbe, un complément, quelque chose. L'adjectif est là pour autre chose, mais pas définir. Aujourd'hui, on définit un film, même restons-en au stade de la critique de film. Les gens, moi, c'est ce qui me redonne envie, et ce qu'on va peut-être faire, si on a le temps, et si je trouve au moins deux ou trois personnes qui en aient envie comme moi, c'est de revenir, en espérant que ça sera une spirale et pas un cercle vicieux, de revenir à faire de la critique et à faire des films, à parler de cinéma ou à faire du cinéma, plutôt sous une forme de revenu, à des moments, pas faire un film, mais écrire ou publier quelque chose, un mélange de photos et textes autrement, et en particulier de la critique de films, que je pense être capable aujourd'hui à des moments de faire un peu d'une autre façon, d'arriver à la critiquer comme on peut critiquer un plat de cuisine ou un moteur mal monté sur une voiture, à ne pas dire c'est beau, c'est magnifique, c'est digne de Sternberg, c'est plus beau que Shakespeare, enfin à dire... Il n'y a qu'à regarder les phrases dont se servent les exploitants et les critiques. Il y a toujours marvelous, fantastic, genius. C'est on utilise même encore quelquefois the best film I ever saw. Quelquefois, pas trop, parce que c'est depuis le temps quand même. Mais encore des fois, il y a ça. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on peut définir un adjectif? Avec un adjectif, on ne peut pas dire beau. Si vous dites que votre petite amie est belle, ça ne la définit pas. Ça, c'est de la musique ou quelque chose, ou la peinture que vous ajoutez à tout ce qu'elle est. Mais si ce qui est une ajoutation devient le centre même de la définition, ça va plus du tout. Même le mot vrai ou faux devient complètement dévalorisé.
Enfin, ne touchons pas aux critiques, parce que ton ex-ami Truffaut l'a bien défini, divisé en sept catégories que je n'aimerais pas répéter aujourd'hui. Oui.
Non, mais ça c'est mon point de vue de critique, alors, c'est-à-dire je n'ai aucune preuve, il faudrait que je fasse une longue enquête, bon, ben, peut-être un jour la faire. À mon avis, moi, esthétiquement, d'après ce que je vois, moi je pense, mais c'est parce que je n'aime pas beaucoup Buñuel, donc je suis subjectif, mais je pense qu'il ment quand il dit ça. Mais c'est ce qu'il a de mieux, peut-être, c'est de mentir, justement. Il faudrait, je sais pas, revoir les films. Moi, je connais pas assez bien. D'après ce qu'ils ont fait l'un et l'autre et des choses comme ça, je pense que, je sais pas, ils étaient à peu près égalité et que c'est plus qu'on ne croit un film de Salvador Dalí et que ce qu'il y a de plus faible, qui est l'attaque de la religion d'une manière plus, un peu plus enfantine ou des choses comme ça, vient plus de montrer des curés ou des choses comme ça qui font rire, justement. Alors que d'autres choses à l'époque faisaient plutôt peur et que même, je me souviens, j'avais vu il y a 4-5 ans au Festival de New York où il n'était jamais passé l'âge d'or et il y avait un certain silence dans la salle, même tout blasé qu'ils étaient, les New Yorkais, des trucs comme ça. Je pense qu'il y avait une certaine puissance de C'est un film qui transgressait certaines choses. Bon, c'était des choses passées, c'était une mode de société passée qu'on transgressait. Mais les gens sentaient inconsciemment que, effectivement, il y avait plein d'interdits dans leur propre vie qu'eux-mêmes n'osaient pas transgresser et qu'ils avaient là une image de transgression. C'est dans ce sens-là, je crois qu'on peut le classer comme film politique. Ça serait intéressant de savoir comment ça s'est fait exactement. Moi, je vous ai dit mon point de vue subjectif. Voilà. Je trouve que c'est le film où, si c'est Buñuel qui l'a fait, c'est de ses films les plus violents. Les autres l'ont été beaucoup moins violents. Et enfin, c'est autre chose. Ben non, mais c'est que les gens sont peut-être plus gentils aussi, puis que moi j'ai rajeuni là. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein de choses à laquelle je ne savais pas répondre, ou je ne savais pas être, ou je ne savais pas me comporter, et que bon, petit à petit, je me suis enfin tout petit peu dans le cinéma, pas dans la vie, mais j'ai toujours pensé que le cinéma pouvait m'aider. Sinon, je vois pas pourquoi j'irais. C'est dans ce sens-là. Aujourd'hui, je comprends que je suis près du public, mais c'est-à-dire que je fais partie de lui. Et le public ne m'accepte pas parce que je fais aussi des films, alors que le public n'en fait pas. Et que c'est pour ça qu'il sent que mes films ont peu de succès dans un grand public, sinon auprès d'un public de créateurs qui est romancier, étudiant ou quelque chose, et qui pense que je suis. Mais le public normal ne m'accepte pas car il sent tout de suite un ouvrier. Ou un, je sais pas quoi, quand ils voient un film par rapport à un film de Travolta, je veux dire, ils sentent très bien que moi, je fais partie de lui, alors que Travolta ne fait plus partie de lui. Mais c'est ça qu'ils demandent à Travolta, c'est ce qu'ils n'acceptent pas de moi, et que moi, je laisse voir. Et disons, moi, je vois pas pourquoi je dis que je me sens près du public uniquement parce que j'ai besoin d'un film pour moi, sinon je n'en ferais pas. Si j'avais besoin de plutôt de naviguer, je serais sur un bateau ou si la médecine m'intéresserait plus. Du reste, j'ai mis beaucoup de temps à trouver que ça serait un film. À un moment donné, je suis arrivé là-dedans et j'ai vu que. Mais j'ai besoin de faire un film pour moi, pour dire qui je suis et pour avoir le droit de demander à l'autre. Ben, j'ai besoin. Mais à des moments, je trouve c'est vraiment merveilleux l'image, car ça permet de tout dire, de dire ses défauts, mais à des moments de n'être pas gêné, car ils sont à côté de vous. Et que si on vous critique de vos défauts, du fait que vous avez montré quelque chose de vous à côté, lorsqu'on vous critiquera, vous ne le sentirez pas trop fort. Si on dit ce que tu as fait est bête, plutôt que de dire tout de suite tu es bête, ça je le sens comme tout le monde, ça me gêne. Je dis c'est pas vrai, toi aussi, bon, ça fait une dispute comme toutes les disputes. Mais si on le met sur une image et qu'à un moment je vois vraiment que je suis, on me dit t'es gros, puis je vois une image de toi, puis ça ne te va pas, ben, je peux le voir. Mais pareil pour d'autres choses, pour dire tu es con d'avoir payé telle personne comme ça, ou tu es con d'avoir séduit telle personne comme ça, et que je peux le montrer. C'est ça que je demande, c'est ça que je trouve l'image est précieuse, et c'est à cause de ce prix étant tellement grand que je pense que les gens en ont besoin. Mais les gens au pouvoir, ou ceux qui soutiennent les gens au pouvoir, et dont la majeure partie fait partie, parce que sinon ils n'y seraient pas, eh bien, il faut se servir de l'image, parce qu'on sait au-delà de soi que c'est puissant et qu'on en a besoin, ne fût-ce que l'image de nous-mêmes, mais il faut en même temps essayer de masquer son pouvoir réel, qui n'est qu'un pouvoir de discussion. Et pas un pouvoir d'assommer quelqu'un. Or, effectivement, on cherche à assommer quelqu'un, soit avec une preuve définitive, innocent ou coupable, mais pas un peu innocent et beaucoup coupable, ou beaucoup coupable et un peu innocent. Et c'est en ça que je trouve, effectivement, l'image extrême. Ça permet de parler. Sans l'image, on ne peut pas parler. C'est pour ça que les cours de cinéma ou les histoires qui se font loin de l'image, enfin, me semble. Moi, j'ai essayé de les rapprocher ici avec Serge dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, essayer de ne pas parler d'un film, mais au moins deux, trois ou quatre. Et puis en même temps, bon, c'est moi qui les ai choisis, mais parce que j'avais besoin, pour une histoire du cinéma qu'on prépare, après tout, j'avais besoin au moins de revoir mon propre trajet historique avec mes films, et qu'à des moments, effectivement, je trouve extraordinaire, mais un petit sentiment d'un coup de seconde, dire tiens, mais j'ai fait un film, puis je vais revoir le Potemkin, mais juste avant, et puis bon, ça va me permettre d'y penser. Ça, c'est quelque chose de précieux. Effectivement, c'est un peu exagéré que moi, je puisse le faire pour moi et pas pour vous.
Donc, il est en train de renaître par rapport à Venise, n'est-ce pas?
Oui, mais il faut dire qu'à ce moment-là, bon, ben, moi, je suis la même chose, que c'est pour ça que j'ai du respect pour eux, même des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un festival? Aujourd'hui, je ne pourrais même pas le supporter. Je ne pourrais pas supporter les... Oui, mais on se sentait extrêmement mal à l'aise, car effectivement, on ne voulait plus aller à l'autre festival, et puis on se sentait obligé d'aller à celui-là, et en fait, on n'osait pas dire à ceux-là qu'ils étaient aussi cons que nous d'être là. Et puis en même temps, on avait quand même envie un peu de montrer notre film. Donc tout ça, c'est extrêmement complexe. Effectivement, c'est d'aller à une soirée, et puis ensuite, de dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces cons-là dans ces soirées? Moi, je peux plus y être, mais en même temps, si on peut dire qu'est-ce que c'est que ces cons-là dans cette soirée, c'est qu'on y est, sinon on ne pourrait pas le dire. Donc les festivals, effectivement, le cinéma, sont une espèce de loi, et il y en a de plus en plus, il y en a même à Montréal pas mal, mais effectivement, c'est le seul endroit où on ne parle pas des films. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est les gens de cinéma, comme ils ne parlent plus des films, ben ils ont besoin, il faut quand même parler un peu de ce qu'on fait, donc ils s'assemblent sous une certaine forme, bon ben c'est comme partout, il y a des congrès de dentistes, il y a des congrès de trucs comme ça, les cinéastes, une industrie comme une autre, ils font des congrès. Ben simplement, ils l'appellent autrement. Les dentistes, effectivement, ils n'oseraient pas dire festival de la dent. Ah ben ça, c'est que l'histoire est ma fête, parce que moi j'ai toujours tourné beaucoup de films, et là on en tourne, à partir du moment où les gens, je ne sais pas qui, ont dit qu'on a arrêté, mais c'est le moment où on en a tourné encore plus, mais ils ont été peu vus, des fois de manière volontaire, des fois de manière involontaire, et que ça a été plus aussi des recherches ou des études, et qu'à des moments, un film pour nous était réussi, aussi s'il a été vraiment vu par deux ou trois personnes, ben c'est un peu plus vrai, je ne sais pas, une forme, et qu'aujourd'hui, là, le fait qu'il y ait la vidéo, les films d'amateurs ou des tas de choses comme ça, on peut faire, c'est plus vrai que le film coûte cher, certains films coûtent cher, certains films coûtent bon marché, il y a des moments, certains moments de films n'ont pas à être des films, de même que les phrases que vous prononcez dans la journée, vous ne cherchez pas à en faire un roman, ça fait partie du roman de votre vie, mais vous ne cherchez pas à faire que la phrase que vous avez dit en achetant un kilo de viande, et puis ensuite en prenant un taxi, puis ensuite comme ça, tout ça fasse un tout harmonieux, et puis le soir que vous ayez dit, oh quel bel ouvrage j'ai fait aujourd'hui, ben, les films c'est absolument pareil, ça sert. Alors je pense qu'il y a certains films qui devraient être faits pour être vus par peu de monde, il y a certains films qui devraient être faits pour être vus que par les étudiants ici, si on est là, certains, ou les films scientifiques ne sont vus que par certains scientifiques, à des moments, bon, et puis s'il a un intérêt, mais les films de fiction devraient être comme ça, mais il y a une idée complètement totalitaire sur le cinéma, et qui vient d'Hollywood, car il n'existait pas avant, et tout le monde a cédé devant Hollywood, pour des raisons dont on parlait hier, qui sont des raisons que moi je vois sous une certaine que je sens comme des nuages que j'appelle les histoires et l'histoire, qui fait que tout le monde a délégué à Hollywood le pouvoir de raconter des histoires, et qui a un rapport avec l'histoire quand même. Non, je disais qu'il y avait Oui, non, là, c'était parti sur Hollywood, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée très totalitaire, qui est capitaliste ou socialiste, qui est russe comme Amérique, comme chinois. Ah oui, mais sauf qu'Hollywood sont bien plus forts que les Russes là-dessus, parce que tout le monde voit des films américains. Si un film, aujourd'hui, si vous sortez un film russe sur Sunset Boulevard ou sur la 5e Avenue, ben personne ne fera la queue, tandis que si vous sortez un film américain à Moscou, tout le monde fera la queue. Il y a quelques... Oui, mais il y a une idée très totalitaire qu'un film doit être vu par tout le monde. Il y a plein de cinéastes qui se disent encore, moi je veux que mes films soient vus par beaucoup de personnes. Il y a peut-être quelque chose de tout. Il y a quelque chose de vrai dans cette totalité. Et cette totalité, mais à un moment donné, cette totalité ne doit pas s'exercer sous une forme qui devient que ce qu'on appelle du totalitarisme, si vous voulez, qui est comme la race pure. Mais alors si les films, il y a aussi les bons films ariens, puis les pauvres films juifs, ou les pauvres films arabes. Ben, effectivement, moi à des moments, je me suis intéressé aux arabes, aux juifs, ou d'autres, aux minorités, en me sentant vraiment en minorité aussi dans mon endroit, en disant, mais vous n'êtes pas le parfait exemple du film qui est vu par tout le monde. Heureusement. Oui, mais heureusement, mais en même temps, vous n'avez plus le droit à un salaire si vous êtes cette minorité-là. Car n'ont droit à un salaire dans le cinéma que les gens qui sont vus partout. Et la télévision les remplace. Alors effectivement, moi, quand je vois un opérateur de télévision qui travaille en gilet, en cravate, qui est là comme ça, qui est aux ordres. Effectivement, quand on est là, on s'est dit, mais pourquoi lui a-t-il le droit d'être payé à ne rien faire, et alors que nous, on doit travailler comme des même mal et exagérer. Mais dans cette idée de totalité, justement, je pense qu'il y a quelque chose de vrai, et il y a quelque chose de complètement démentiel et faux. Ce qui est intéressant, c'est les limites. Car il n'y a que par les limites qu'on peut connaître notre totalité trop grande, notre désir de non-limite dans les deux sens, et puis la réalité, le cadre est extrêmement intéressant, effectivement, le frame, tout est cadré, tout est frais, mais si c'est cadré en rond ou en carré, effectivement, c'est que l'image est une image de la vie, et la représentation, c'est un certain cadre, de même que nous, on a un certain cadre, même physique, qu'on appelle son corps. Ensuite, il y a un cadre social, et le problème du cadre et puis de l'angle sont des choses intéressantes. On voit effectivement que je sais pas, dans l'histoire du cinéma qu'on racontera, on parlera plutôt du cinéma américain comme ayant inventé le gros plan et la vedette et la star, et on parlera du cinéma russe comme ayant inventé tout cherchant ce que j'ai appelé qu'on peut appeler le montage, c'est-à-dire un accord. Mais l'un, le cherchant à travers le gros plan, et croyant qu'il avait trouvé quelque chose, ou Eisenstein croyant qu'il avait trouvé le montage, alors qu'Eisenstein, il avait trouvé l'angle, il savait où placer la caméra, et puis il l'a su une fois, puis il n'y en avait même pas 36 en Russie, car c'était pas... Mais c'était parce qu'en Russie, il avait un autre point de vue sur les choses, et qu'effectivement, à un moment donné, ben, ça s'est inscrit dans un individu qui a su trouver un autre point de vue et qui était unique, parce que les Allemands à l'époque, ils ne travaillaient pas comme ça, les Français non plus, les Américains non plus. C'est Eisenstein, effectivement, qui a des soldats qui fusillent des gens, qui descendent un escalier. En trois, il y avait un point, une manière de filmer autrement qui n'avait aucun rapport et que personne n'a retrouvé depuis. Personne s'est placé qu'Eisenstein. À un moment donné... Non, même pas. Qui plaçait la caméra d'abord et puis qui construisait son film comme ça, inconsciemment. Il n'y a qu'à regarder les cours de mise en scène d'Eisenstein avec tous les dessins qu'ils font, c'est absolument. Là, on voit ce que c'est que. On peut sentir ce que c'est que faire une image à un moment donné où il y a des changements dans la société. Et puis, bon, il n'est peut-être pas tout seul, il a suivi le cours de son histoire.
Oui, hélas, cette image totalitaire du cinéma est toujours là, parce que vous n'avez rien à comparer à la littérature. Un écrivain, quand il commence à écrire, il n'est pas payé avant quelques années. Alors, vous n'avez même pas commencé à vous occuper de l'image, Vous payez déjà un scénariste. Trouvez-moi un scénariste qui va vous le dire aux Américains, cette image dont Jean-Luc parlait, n'est-ce pas, cette image totalitaire qui est venue d'Hollywood et qui s'est répandue à travers le monde. Vous êtes obligé de payer avant de toucher à l'image même le créateur, donc le réalisateur. Vous êtes obligé de payer d'abord le scénariste. Quel scénariste, disons, un scénariste plus ou moins connu, même si on voulait engager demain pour faire quelque chose, il est payé d'avance. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on se verra, disons, vendredi prochain, puis samedi. Et puis je vous préviens, les extraits qu'on ne montre pas, on va le montrer quand on verra l'histoire là, définitive. En ce qui concerne Jean-Luc Godard, bien sûr, de l'histoire du cinéma, on va mettre tous ces extraits quand on fera le montage, je vais dire définitif. Donc, vous le verrez tout à l'heure, d'ici 2 ans. Alors, merci. Alors, vendredi et samedi prochain.